Mère Moïse Amélie, vous êtes la prieure de la communauté. Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à ce numéro Musique et moi. Nous vous proposons en fait, dans un premier temps, de vous écouter dans la présentation de votre congrégation.
Pour donner à la congrégation des servantes des pauvres qui fondait son caractère propre, dont Camille le Duc voulut la rattacher à l'ordre de Saint-Benoît, moine bénédictin, il pensait que les servantes des pauvres ne trouveraient nulle part mieux que dans la règle de Saint-Benoît, non seulement des principes sûrs pour la formation de leurs âmes, mais même le fondement de leur œuvre principale, le service des pauvres. La règle contient tout à la fois les éléments de la vie contemplative et de la vie active. Les sœurs y cueilleront la fleur de l'Évangile et y respireront le parfum de la sainteté, nous a transmis Don le Duc. Ainsi, la règle bénédictine est pour la servante des pauvres l'aide très précieuse qui la conduit à la fois vers Dieu et vers les plus malheureux de ses frères. Dans la forte spiritualité bénédictine, elle trouve le secret de l'unité de sa vie, l'école du service du Seigneur qu'a voulu fonder Saint Benoît ne fait qu'un avec l'école du service des pauvres. La servante des pauvres peut donc, comme Sainte Françoise Romaine, patronne de la congrégation, embrasser tout à la fois la vie contemplative, comme Marie au pied du Sauveur, et les œuvres de la vie active, comme Marthe au service de son hôte divin, comme nous l'enseigne Don le Duc encore une fois. Chaque jour, la communauté assiste à la messe. L'Église, en effet, enseigne que le sacrifice eucharistique est la source et le sommet de toute vie chrétienne. La servante des pauvres a donc à cœur d'y participer et de s'unir à ce sacrifice du Christ par sa propre offrande. Ne rien préférer à l'œuvre de Dieu, écrit Saint Benoît dans sa règle. Don le Duc, vrai fils de Don Guéranger, a su transmettre à ses filles son amour de la liturgie, prière officielle de l'Église. Si le service extérieur des pauvres ne permet pas à la servante des pauvres de célébrer en son entier le grand office, elle garde en son cœur estime et attachement pour l'Opus Dei, œuvre de Dieu par excellence. Vraiment bénédictine, elle apporte tous ses soins à célébrer dignement la partie de l'office compatible avec sa vie, l'aude le matin, vêpres le soir et complies à la fin de la journée. Le chant grégorien ajoute encore à la grandeur simple et recueillie de ses offices, dont le Duc nous enseigne que la Mère de Dieu a été la première adoratrice de la Sainte Face. Chercher Dieu dans sa face, y découvrir son immense amour pour chacun et pour tous, y découvrir le mystère du Fils incarné, Dieu lui-même, en ses aspects joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, dont le Duc a voulu donner à ses filles cette recherche très concrète de Dieu. En contemplant la Sainte Face, la servante des pauvres découvre son Seigneur autant qu'elle le découvre sous les traits du pauvre qu'elle soigne.
Chaque jour, la servante des pauvres consacre une heure à l'oraison silencieuse. Pendant ce temps exclusivement réservé à Dieu, elle ne cessait à rien d'autre qu'à se tenir en sa présence. Dans ce contact intime, elle renouvelle ses forces spirituelles et puise les énergies nécessaires à sa mission. Les sœurs s'affectionneront d'autant plus à leur rosaire qu'il est devenu la prière favorite de la Mère de Dieu, nous dit Don le Duc. En effet, chaque jour, la récitation d'une partie du rosaire se fait également au cœur, à la façon d'une psalmodie alternée. Cette forme de prière, simple et accessible à tous, a été mise en honneur dès l'origine de la congrégation. C'est la prière des humbles, celle que l'on peut réciter avec les malades. Elles feront de l'Évangile leur livre de chevet et l'imprimeront dans leur cœur comme la marque du céleste époux, enseigne Don le Duc. Cette vie de prière est en effet nourrie par la lecture et la lectio divina dont parle Saint Benoît. En lisant la Sainte Écriture, on écoute Dieu parler, on le rencontre dans une connaissance intime et savoureuse. Les auteurs spirituels se font à leur tour l'écho de cette parole et aident à la mettre en pratique. Cette recherche exclusive de Dieu pousse la servante des pauvres à se donner tout entière à son Seigneur en vivant les conseils évangéliques dans leur radicalité. Aimer la chasteté. Seul un très grand amour justifie la chasteté parfaite. C'est un grand don de la grâce permettant de s'attacher d'un cœur libre et pur au Seigneur et de participer au mystère de sainteté de l'Église épouse du Christ. Ne rien posséder, se renoncer soi-même. Saint Benoît ne fait pas de la pauvreté un but. Il la considère comme la condition et la conséquence de l'appartenance totale à Dieu. Ce qu'elle vise, c'est le détachement intérieur nécessaire à l'union à Dieu. Se soumettre pour l'amour de Dieu en toute obéissance au supérieur. Dans la vie religieuse, on n'obéit jamais qu'à Dieu. Tout ordre vient du Seigneur lui-même, puisque la foi fait voir dans le supérieur celui dont il tient la place. C'est d'abord la règle de Saint Benoît au chapitre des instruments des bonnes œuvres que dont le duc va puiser pour tracer les grandes lignes de la mission des sœurs. Soulager les pauvres, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, ensevelir les morts, secourir ceux qui sont dans l'épreuve, consoler les affligés. Six sentences qui sont en même temps les règles d'or de la charité. Cette mission va donc s'exercer auprès des malades les plus pauvres et les plus défavorisés. Avant tout et par-dessus tout, on prendra soin des malades et on les servira comme s'ils étaient le Christ en personne, écrit encore Saint Benoît dans sa règle. Pour la servante des pauvres, c'est donc le Christ lui-même qu'elle approche. Dont le duc ne se lassait pas de rappeler cet enseignement. Soigner les malades, n'est-ce pas soigner notre Seigneur souffrant ? La servante des pauvres doit considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme son malade, comme son modèle dans le service des pauvres et comme l'objet de ses soins en assistant les malades. Pour cela, avant de quitter la communauté, la servante des pauvres se rend à la chapelle pour adresser à Dieu une fervente prière, lui demander les grâces nécessaires pour remplir sa mission et recevoir sa bénédiction. Suivant l'exemple du Seigneur, elle souhaite la paix en arrivant chez le malade, en redisant les paroles de Jésus que l'on retrouve en Saint Luc au chapitre 10, verset 5, « Paix à cette maison ». La maison du pauvre est considérée comme la maison même du Seigneur, et c'est pour cela que la sœur n'y pénètre qu'avec foi et respect. La sœur travaille en étroite collaboration avec le médecin pour assurer des soins de qualité. À mesure que les souffrances du malade augmentent, la sœur multiplie les soins et les prévenances. Dont le duc a donné un but apostolique et les sœurs ont conscience d'être envoyées par l'Église auprès des pauvres pour être témoins de l'amour de Jésus-Christ. Tout par l'Église, tout pour l'Église, tel sera l'esprit constant de leur œuvre, redisait sans cesse dont le duc. Les sœurs travaillent à l'établissement de son règne avec l'ardeur d'une charité sans cesse en progrès qui s'alimente dans la contemplation et l'adoration. Faire découvrir la tendresse de Dieu à travers d'humbles soins accomplis avec amour. Porter le Christ, mais aussi aller à sa rencontre dans le cœur des plus malheureux, si défiguré soit-il, et si loin soit-il de toute préoccupation religieuse. Révéler le visage de l'Église et ses trésors de grâce. Soutenir la foi de ceux qui croient au Christ et les éveiller à leur responsabilité missionnaire. Faire des malades, des personnes âgées et des enfants des coopérateurs de l'extension du règne de Dieu dans les âmes, Telle est la belle mission confiée par l'Église aux servantes des pauvres.